Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, je reçois Christian Lochon, arabisant, spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Vous avez occupé au cours de votre carrière plusieurs postes d'enseignement en Algérie, en Irak, en Iran, au Liban et en Égypte. À chaque fois, vous pratiquez la méthode de la rencontre et vous vous immergez dans la culture du pays. Les chrétiens orientaux vous intéressent donc et vous nous proposez un livre, Chrétien du Proche-Orient, Grandeur et malheur, avec un avant-propos de Mgr Pascal Gollnisch, le directeur général de l'œuvre d'Orient. Un texte qui tient à la fois de la recherche historique que de l'analyse géopolitique. Alors ma première question serait peut-être plus personnelle. Dites-nous un peu, Christian Lochon, quelle était votre première rencontre avec l'Orient chrétien ?
Eh bien, écoutez, je crois que ça a été d'abord la rencontre avec un être exceptionnel, qu'on considère comme un grand savant, mais qui est précisément un de ces passeurs qui passent souvent chez vous, c'est naturellement Louis Massignon. Et donc j'ai eu la chance, étant donné mon âge, de connaître Louis Massignon quand j'étais étudiant, et j'étais à l'INALCO, enfin à Langzaux de l'époque, et je lui ai demandé son aide pour pouvoir aller dans un pays arabe, pour apprendre l'arabe, puisque... À cette époque-là, seules les familles qui avaient vécu, par exemple, soit en Afrique du Nord, soit au pays du Levant pendant le mandat, avaient fourni des arabisants. Moi, je venais d'une famille qui n'avait rien à voir du tout avec donc le Moyen-Orient ni le Maghreb. Et donc, je suis allé voir Louis Massignon, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, voyez-vous, c'est de voir un homme de cette stature qui reçoit un simple étudiant de première année, tout en lui donnant la même importance que quelqu'un qui serait de son niveau. Et Louis Massignon a trouvé le système. Il a dit, c'est très simple, vous savez que chez Louis Massignon, l'Irak a toujours été quelque chose de très important. Ça a été finalement son destin qui a été scellé là.
Et une fameuse rencontre à Bagdad.
La fameuse rencontre à Bagdad.
Il faudrait peut-être rappeler que Louis Massignon était un arabisant, professeur au Collège de France.
Professeur au Collège de France, qui est donc mort en 1962, et qui est maintenant connu pour ses écrits également mystiques. Le père Bormans vient d'éditer un livre, notamment sur... sur Louis Massignon et comment il peut aider à demeurer à la fois dans la foi, mais aussi dans l'espoir. Et donc Louis Massignon m'a présenté aux pères dominicains. Vous savez que les pères dominicains étaient notamment en Irak. Ils étaient en Irak, ils étaient en Égypte. Je les retrouvais en Égypte, au Liban, en Syrie. Et ils avaient, depuis les années 1878, ouvert un séminaire qui était à la fois pour les jeunes syriaques et les jeunes chaldéens, et qui était à Mossoul. Et donc, je suis arrivé à Mossoul. À cette époque-là, on y allait encore par le bateau, vous voyez, le bateau, Beyrouth, et puis ensuite Beyrouth-Damas, et puis Damas, 26 heures pour arriver à Bagdad. Et puis ensuite, Bagdad, il y avait quand même un train qui montait vers Mossoul. Et puis, en sortant de la gare, c'était donc en 1957, je cherche un taxi pour aller à l'horloge des pères dominicains que Daesh vient justement de détruire. On l'a vu
il y a quelques semaines.
Un cadeau, voilà, il y a à peu près 15 jours, c'était un cadeau de l'impératrice, donc en 1867. Et donc, je ne trouve pas taxi, mais des calèches. Et donc, je prends une calèche. Voilà. Et c'était quelque chose pour moi qui était, encore jeune, une expérience extraordinaire, parce que Mossoul était à cette époque-là vraiment une ville qui résumait le Moyen-Orient dans la mesure où vous trouviez toutes les communautés. Vous trouviez des chrétiens, donc de toute communauté, vous trouviez des yézidis aussi, ces pauvres yézidis qui ont été tellement persécutés récemment, vous trouviez des chiites, vous trouviez des sunnites, vous trouviez des kurdes qui étaient des kakaïs, vous trouviez des turkmènes, et chacun était dans son habit, voyez, et c'était quelque chose d'extraordinaire pour le petit Parisien que j'étais à l'époque, vraiment sortir dans les rues de Mossoul. Et j'ai eu cette chance, naturellement, avec le contact avec les jeunes étudiants et puis leurs familles, c'est-à-dire, donc, j'ai eu cette chance extraordinaire parce que elle ne se renouvellera plus lorsque je serai nommé à nouveau en Irak, à la fois comme lecteur, après, comme lecteur à l'université de Bagdad, à l'Institut des langues, et puis je reviendrai une troisième fois comme attaché culturel adjoint, et je n'aurai plus l'occasion de revenir dans le Nord. Et donc, nous visitions le samedi et le dimanche tous les villages du Nord, et ça a été un privilège pour moi, puisque l'œuvre d'Orient, comme vous le savez, a organisé il y a 2 ans un voyage, notamment dans le nord de l'Irak. Et donc, j'ai pu retrouver ces villes de Qaraqosh que je pense qui sont en train d'être reprises ou qui sont actuellement où Daesh s'est installé. Mais tous ces villages syriaques, tous ces villages chaldéens. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'étais donc avec des amis de l'œuvre d'Orient. Et dans chaque village, je retrouvais des éléments de ce passage pratiquement 55 ans plus tôt.
Un demi-siècle auparavant.
Et j'ai retrouvé notamment dans un petit village près d'Al-Qosh, le bedeau de l'église, qui était un monsieur d'à peu près d'une trentaine d'années. Et en lui parlant, je me suis aperçu que j'avais logé chez ses grands-parents, ça m'avait beaucoup frappé parce que à cette époque-là, les chrétiens du Nord s'habillaient en kurde. Vous savez, ils étaient complètement intégrés dans la culture kurde. Et il m'a dit que ses grands-parents avaient émigré aux États-Unis et sa grand-mère était morte quelques jours plus tôt. Cette dame qui m'avait reçu quand j'étais avec donc les séminaristes. Et ce sont, voyez-vous, c'était l'Irak profond. C'est pourquoi, lorsque on voit actuellement ce qui se passe, on a une peine immense, bien sûr, mais on ne peut pas comprendre, parce que bien que ce n'était pas le paradis, dans les années 57, l'Irak a toujours été quand même un pays policier, un pays dur, etc. Mais il y avait une entente qui était extraordinaire, une entente entre les différentes religions, et ceci constituait ce fond. Et voyez-vous, vous aurez parlé dans une autre émission de l'épopée de Gilgamesh, et je crois que en amont, vous avez tout ce fond extraordinaire, c'est-à-dire nous avions affaire à des personnes qui n'étaient pas particulièrement cultivés, mais qui avaient l'impression de participer à la même culture, même s'ils étaient musulmans, chrétiens ou juifs. Et c'est l'image que donnait l'Irak à l'époque. Et puis, plus tard, quand je reviendrai en Irak, après mon service militaire, c'est-à-dire en 64, de 64 à 66, où je serai lecteur à l'université de Bagdad, là, vous aviez le début de quelque chose d'extraordinaire, notamment dans la promotion féminine. C'était la première fois qu'on voyait dans des universités irakiennes des dames qui étaient doyennes ou chefs de département. C'est-à-dire que l'Irak était très en avance, notamment pour la promotion féminine. Et ça ne m'étonne pas parce que il y a une culture fantastique en Irak. Et puis, mon dernier séjour, ça a été de 68 à 70, où j'étais donc directeur du Centre culturel français et donc attaché culturel adjoint. Et là, cette connaissance de toute cette littérature moderne irakienne à l'époque, vous savez, ces grands poètes et poétesses, ces grands écrivains, l'Irak était un grand pays.
Est-ce que vous avez, Christian Lochon, est-ce que vous avez retrouvé cette ambiance de Mossoul, cette mosaïque irakienne, vous l'avez retrouvée dans d'autres pays parmi lesquels vous avez habité?
C'est une très bonne question. En Syrie, bien sûr. En Syrie, vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire que vous avez des chrétiens tout à fait intégrés dans des régions musulmanes. Vous avez ce même échange. C'était au milieu des années 80 jusqu'en 89. J'étais attaché culturel à Damas. Et là, il y avait aussi ce fond de culture, ce fond de littérature extraordinaire, et dans laquelle baignaient notamment des intellectuels. Si vous alliez notamment au syndicat des auteurs, vous voyez des auteurs chrétiens, druzes, chiites, sunnites qui participaient. Enfin, il y avait une unité de pensée qui était extraordinaire. Et lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui en Syrie comme en Irak, c'est la catastrophe totale. Parce que cet esprit-là, il disparaît.
Un thème auquel vous êtes très attaché, on le sent tout au long de votre livre, dont je rappelle le titre, « Chrétien du Proche-Orient, grandeur et malheur » chez Maisonneuve Éditeur, c'est le thème de la francophonie. Un sujet qui vous est particulièrement cher.
Oui, alors bien sûr, étant donné que j'étais un enseignant, c'est tout à fait naturel. Vous savez, la question de la francophonie, il y a une francophonie au Proche-Orient, il y a une francophonie en Égypte absolument extraordinaire, mais il n'y a pas une francophonie, par exemple, en Asie du Sud-Est. Pourquoi ? Eh bien, je crois que tout revient à quelque chose qui aura protégé les chrétiens d'une manière générale, c'est ces fameuses capitulations. Capitulationes veut dire chapitre, n'est-ce pas ? C'était les chapitres d'un traité d'entente ou d'un traité d'amitié entre l'Empire ottoman et la France en 1536. François Ier est en grande difficulté, il est prisonnier, la reine-mère négocie finalement avec des diplomates qui étaient des diplomates français qui étaient absolument extraordinaires parce que ils vont pousser la France à s'allier ou à s'allier économiquement, presque culturellement, avec un pays qui était l'ennemi de l'Europe en général et qui était l'Empire ottoman. Et donc cette perspicacité, cette anticipation de l'avenir, ça vraiment, les diplomates de François Ier, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour quelle raison ? C'est que contre quelques petites concessions qui étaient le droit de nolisement, notamment dans certains ports de la Méditerranée, Toulon ou autres, le roi de France, en tant que roi très catholique, se voyait confier la protection des chrétiens occidentaux. Alors au départ, dans les capitulations de 1536, et puis c'est renouvelé jusqu'au XVIIIe siècle, à partir du début du XVIIIe siècle, qu'on va introduire aussi les chrétiens orientaux. Les chrétiens occidentaux sont les protégés du roi de France. Mais vous connaissez merveilleusement la Turquie, donc vous savez combien nous avions un consul à Izmir, on avait un consul à Mossoul, et puis on avait même des petits consulats à Diyarbakir, un peu partout. Pour quelle raison ? À Mardin, par exemple. Pour quelle raison ? Eh bien, simplement parce qu'il y avait des chrétiens orientaux là. Et donc, les consuls qui, naturellement, étant les consuls du roi très catholique, devaient écouter la messe tous les jours, il fallait donc qu'il y ait des membres des congrégations. Il y aura à ce moment-là les jésuites, il y aura les lazaristes qui vont arriver. Les franciscains étaient déjà là depuis l'époque des mamelouks à Jérusalem. Et toutes ces congrégations, d'abord masculines entièrement, les dominicains aussi, vont peu à peu faire venir des congrégations féminines. Les congrégations masculines vont ouvrir des écoles. Ces écoles seront d'abord ouvertes a ouverte à, d'abord aux jeunes chrétiens, bien sûr. C'est à partir du 19e siècle que les écoles...
Mais avec des professeurs qui viennent de France.
Avec des professeurs qui viennent de France, mais...
Et d'ailleurs.
Mais les premiers élèves vont devenir les professeurs. Il y a la thèse du professeur Héberger, précisément, sur comment ça s'est passé à Alep. Avec les Monsieur Héberger a travaillé sur notamment les carnets d'un directeur d'école de l'époque, et on voit un directeur d'école qui était un Alépin. C'est plus tard, vous savez, il y a un moment où je serai nommé au Caire, et je serai nommé au Caire à l'université de Rheinschams, mais mon chef de département me fera nommer là où il était, à l'Azhar. Et donc j'ai enseigné, j'ai eu ce privilège d'enseigner pendant 5 ans à l'université de l'Azhar.
Qui est la grande université
dans du monde islamique. Dans la grande université musulmane, ouverte seulement aux musulmans. On m'avait nommé à la faculté de jeunes filles. La faculté de jeunes filles, donc naturellement l'université de l'Azhar, c'est un enseignement qui est séparé. Et la faculté de jeunes filles, ce sont en général d'anciennes élèves de toutes les écoles. La Mère de Dieu, les franciscaines, etc., de toutes les écoles catholiques, parce que les familles, les grandes familles, les familles de la bourgeoisie, Kérote ou Alexandrine, ne mettent leurs filles que dans des établissements religieux catholiques. Et donc tout ceci rejoint précisément ces fameuses capitulations, parce que tout d'un coup on va voir que la francophonie va s'établir de façon extraordinaire. J'avais des étudiantes en master 2 de traduction simultanée, donc des jeunes filles qui avaient un niveau de français, d'anglais et d'arabe absolument extraordinaire, voyez-vous. Et ça, c'était dû aux établissements scolaires qui avaient été hérités du fait des capitulations. Il ne faut pas oublier qu'en 1899, nous aurons 120 000 élèves dans les écoles catholiques de l'ensemble de l'Empire ottoman, c'est-à-dire jusqu'à l'Égypte, sur lesquels il y avait déjà 20 000 jeunes musulmans. Donc, vous voyez, c'est important, et la francophonie, elle est héritée précisément de ces capitulations.
Christian Lochon, une troisième partie dans notre intervention ce matin. Vous êtes très sensible à la question du patrimoine et vous intervenez au cours de conférences sur les monuments du Proche-Orient et Daesh. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?
Oui, alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je voudrais citer quelqu'un qui est passé dans une de vos émissions, M. Azrieh, par exemple. Monsieur Azrieh a bien montré ce fond culturel commun, voyez-vous, entre l'islam et le christianisme. Si vous prenez une ville comme Mossoul, que vous connaissez, vous avez d'anciennes églises qui ont été transformées en mosquées pratiquement au 7e siècle. Et notamment, alors, on a vu la destruction d'églises chrétiennes, mais pas toutes. Il y en a qui ont été conservés, malheureusement, soit comme prison, soit comme établissement par Daesh, puisque tous les chrétiens ont été expulsés. Mais ces d'anciennes églises sont devenues mosquées. Et l'une des mosquées les plus célèbres, précisément de Mossoul, c'était la mosquée de Nabi Younes, c'est-à-dire de Jonas, le fameux Jonas, en fait. N'est-ce pas, de la Bible et du Coran. Et il y avait énormément, et c'est pour cette raison que Daesh a détruit, a fait sauter cette mosquée, dans laquelle il y avait le catafalque d'un archevêque syriaque qui était mort au 6e siècle. Et puis ensuite, lorsque les musulmans sont arrivés, ben on a pensé que c'était celui de Jonas, voyez-vous, on l'a transformé. Mais c'est l'histoire mêlée, entremêlée, c'est-à-dire entre christianisme et islam. Vous savez, ça va même beaucoup plus loin quand vous allez dans le nord, vous trouvez encore des synagogues. Il y avait une grande communauté juive qui se trouvait notamment dans le Kurdistan. Vous le savez très bien, vous avez écrit là-dessus. Et on voit que même après 1948, après le départ de l'ensemble de la population juive d'Irak, que ce soit de Mossoul ou de... Les synagogues ont été conservées. Et cette synagogue est encore préservée, et c'est la synagogue d'Ezra, c'est-à-dire du 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, ces pays sont des conservatoires extraordinaires. Et Daesh vient et va détruire systématiquement, on l'a vu bien sûr pour des sites qui impressionnent, Palmyre par exemple, mais les sites en Irak sont extraordinaires. Vous savez que dans le nord de l'Irak, c'est, quand vous allez dans le sud de l'Irak, c'est bien sûr Ur, etc., la ville de Gilgamesh notamment, c'est en pisé et c'est en briques crues. Mais quand vous allez dans le nord, c'est construit en pierre de taille. Et donc, c'est les grandes villes, Ashur par exemple, Hatra, etc., ont été systématiquement détruites par Daesh, mais la population a été extrêmement heurtée là-dessus, parce que c'est vrai que c'était des villes qui étaient soit des villes parthes, soit des villes romaines, mais elles représentaient la culture du pays. Et donc, c'est cela qui fait que les archéologues sont, vous avez par exemple en Syrie notamment, des archéologues qui sont morts, des gardiens de vestiges qui sont morts pour défendre précisément ces endroits, Hatra ou Palmyre.
Vous pensez au conservateur de Palmyre ?
Alors, je pense au conservateur de Palmyre, qui était un homme, étant donné ma position à Damas, je suis allé très souvent avec de nombreux visiteurs à Damas, c'était à Palmyre, c'était quelqu'un qui était d'une très grande conscience professionnelle. Je pense à lui, et vous savez, il s'est trouvé que le professeur Le Riche, qui a beaucoup fouillé, notamment en Syrie, a fait une soirée, notamment à l'École normale supérieure à Paris, pour ces archéologues et ces gardiens de vestiges qui sont morts.
Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois. Nous recevions ce matin Christian Lochon, chrétien du Proche-Orient, Grandeur et Malheur, un livre qui vient de sortir chez Jean Maisonneuve. Je remercie Dany Journaud, Delphine Baudet, Didier Pinault pour la réalisation de cette émission, émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture en balado diffusion. Et nous retrouvons maintenant Michel Schaeffer et le service protestant. Merci.